Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite. Bonjour et shalom à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Découverte. Nous sommes le vendredi 26 mars, veille de Pessah. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien je vous poserai la question, le saviez-vous? L'un des plus grands cédères de Pessah se tient chaque année à Katmandou. Katmandou qui est la capitale du Népal. Sachez également que 300 kilos de matzot sont expédiés dans plusieurs états du Golfe. On parle évidemment beaucoup des élections en Israël aujourd'hui et de la nomination d'un Premier ministre. Eh bien, rappelez-vous, c'était le 17 mars 1969, Golda Meir devient Premier ministre d'Israël. La France, elle va restituer rosier sous les arbres une toile de Klimt spoliée à une famille juive, Nora Sciansti, en 1938 en Autriche. Cette toile était exposée au musée d'Orsay depuis les années 1980. Le Kosovo, premier pays musulman, ouvrira officiellement son ambassade à Jérusalem. La Tchéquie, elle, inaugure sa représentation en Israël. Chypre et Israël s'accordent sur l'exploitation commerciale du gaz de Méditerranée. Un mot d'histoire, c'était le 12 mars 1939, Eugenio Pacelli succède à Pie XI sous le nom de Pie XII. Avner Shalev quitte la présidence de Yad Vashem. C'est un événement qui ne fait pas la une de l'actualité, mais il quitte sur sa demande donc cette présidence qu'il assumait depuis tout de même 28 ans. Et je vous parlerai, bon, c'est peut-être pas très indiqué, mais enfin, d'une histoire juive, du bagel. Le petit pain rond à trous, le bagel, est aujourd'hui un pain à sandwich que l'on peut trouver à peu près partout dans le monde. Et avant de démarrer en musique avec Avil Toledano, je voudrais saluer la communauté protestante. Mais oui, je me suis laissé dire qu'elle nous écoutait, elle écoute cette émission, alors on est tout content. Et restez bien à l'écoute de Radio Judaïka et place à donc cette chanson qui a gagné le Grand Prix de l'Eurovision en 1982, Aura.
זיו השדה שאספנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם הלילות בכנען תרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד ניסה הערפל בעמק בין הזריחה שעזבנו אז אור הארץ נושאת יבולה ואור יפים הם מלילות בבנן דרם השמש עולה
Bye.
Alors, le saviez-vous, l'un des plus grands cédères de Pessah se tient chaque année, mais oui, à Katmandou. En effet, si la communauté juive du Népal n'est pas bien grande, elle y est très active et ce grâce notamment à la présence sur le terrain du mouvement orthodoxe Chabad. Le pays entretient des relations diplomatiques avec Israël depuis 1960 et de nombreux touristes israéliens s'y rendent chaque année. L'organisation d'un grand céder pour la fête de Pessah à Katmandou a ainsi été initiée par l'ambassade locale de l'État juif dans les années 80. La communauté Chabad a depuis repris le flambeau pour perpétuer la tradition et l'événement n'a cessé de croître pour atteindre des repas de fête avec, mais oui, 1500 à 2000 invités. Mais les Thaïlandais les talonnent puisque la communauté Chabad de Koh Samui parvient désormais, elle aussi, à rassembler environ 2000 convives. Et toujours dans le même ordre d'idées concernant Pessah, 300 kilos de matzot expédiés dans plusieurs États du Golfe, l'envoi est la dernière étape de la croissance des communautés juives dans la région à la suite des fameux accords de normalisation israéliens avec deux de ces pays. Israël a signé, je vous le rappelle, les accords avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn l'an dernier, établissant des relations diplomatiques avec les deux pays. La matzah est également expédiée en Arabie Saoudite, au Qatar, à Oman et au Koweït. L'organisation qui coordonne l'expédition, l'Association des communauté juive du Golfe, a été fondée en février pour faciliter la vie juive et l'observance rituelle dans les six pays en question. Les populations juives des pays varient d'une poignée à des centaines et parallèlement aux accords de normalisation, la culture et la vie religieuse dans certains pays se développent. Les Émirats Arabes Unis, qui ont vu un afflux de touristes israéliens, ont désormais des établissements proposant de la nourriture cachère. L'association juive fournira également des ressources à Pessah aux troupes américaines de la région donc, qui seraient intéressées. Alors, on est en pleine période électorale en Israël, avec la question en suspens qui deviendra Premier ministre. Eh bien, rappelez-vous, c'était le 17 mars 1969. À 73 ans, Golda Meir est nommée Premier ministre d'Israël. Elle a été le quatrième Premier ministre d'Israël, dont bien sûr la première femme, du 17 mars 1969 au 11 avril 1974. Connue pour sa fermeté, elle était surnommée la Dame de Fer de la politique israélienne, mais également la grand-mère d'Israël par la presse. Golda Meir naît Golda Mabovitch à Kiev, en Ukraine, le 3 mai 1898 et meurt à Jérusalem le 8 décembre 1978. En 1903, fuyant les pogroms avec sa famille, elle quitte l'Empire russe et émigre aux États-Unis. Elle n'a que 5 ans. C'est à ses 18 ans que son engagement sioniste militant prend forme. Elle se rend donc à des réunions politiques et défend un sionisme socialiste. Le 23 mai 1921, Golda Meir, son mari et sa sœur font leur alia. Ils embarquent à bord du bateau SS Pocahontas et immigrent vers la Palestine sous mandat britannique. À son arrivée, Golda Meir et sa famille s'installent dans un kibboutz au nord d'Israël. Dès lors, son caractère de leader s'affirme. Toutes ces années, elle gagne en influence au sein du syndicat des travailleurs israéliens. Et en 1924, elle déménage à Tel Aviv, puis à Jérusalem. En 1930, elle est une des fondatrices avec David Ben-Gurion du parti Mapai. En 1946, le pouvoir britannique arrête de nombreux leaders politiques sionistes de Palestine, mais Golda Meir y échappe et prend alors en charge l'organisation en négociant avec les Britanniques. Le 14 mai 1948, Golda Meir est parmi les 24 personnalités et parmi les deux femmes qui signent la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. De 1949 à 1956, elle est ministre du Travail. En 1956, elle reçoit le portefeuille des affaires étrangères dans le gouvernement de David Ben-Gurion, qui dit d'elle qu'elle est le seul homme de son cabinet. En 1965, elle quitte le gouvernement, fatiguée par l'exercice de ses responsabilités. À la mort soudaine de Lévi Eshkol, c'était le 26 février 1969, le parti travailliste choisit Golda Meir pour diriger le gouvernement en tant que premier ministre. Ce poste, elle l'occupera jusqu'au 3 juin 1974. Femme au fort caractère, elle va être en première ligne lors de la guerre de Kippour qui débute en 1973. À l'issue du conflit, Golda Meir démissionnera le 11 avril 1974 et Yitzhak Rabin lui succédera. Après les images de sa nomination programmation par le MAPAI, Golda Meir livre ses premières impressions en anglais. Je suis émue parce que c'est une responsabilité énorme. Mes collègues et moi-même, nous nous efforçons de faire de notre mieux. Aurait certainement reconnu Sarit Haddad. Alors la France va restituer rosier sous les arbres une toile de Klimt spoliée à une famille juive qui s'appelle Nora Stiassny. Le tableau a été exposé au musée d'Orsay depuis les années 1980. Rosier sous les arbres sera donc rendu à la famille de Nora Stiassny, une victime de la Shoah qui en avait été dépossédée lors d'une vente forcée en août 1938. 80 ans après être tombé sous le joug de l'occupant nazi, il va enfin retrouver sa famille initiale. La France va restituer donc à une famille juive ce tableau de Gustav Klimt, dont elle avait été spoliée en 1938 en Autriche. C'est ce qu'a en tout cas indiqué il y a quelques jours la ministre française de la Culture, Madame Roselyne Bachelot. Rosier sous les arbres du peintre autrichien sera donc rendu à cette famille, une victime de la Shoah, qui en avait été dépossédée lors d'une vente forcée en août 38. Les conseils week-end, cinéma, théâtre, opéra, livre. Le tableau est pour le moment inaliénable en vertu de la loi, puisqu'il appartient en collection nationale. Mais le gouvernement présentera dès que possible un projet de loi pour permettre cette restitution, a précisé la ministre Bachelot. Il s'agit en fait de la seule peinture de Gustav Klimt dont la France était propriétaire, a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse. L'œuvre était exposée au musée d'Orsay après avoir été acquise en 1980. À l'époque, rien ne laissait penser à une spoliation. C'est au cours des dernières années que la véritable provenance du tableau a été établie, a ajouté Madame Bachelot, ce qui a poussé les descendants à faire la demande de restitution fin 2019. Rosier sous les arbres est le témoin de ces vies qu'une volonté criminelle a obstinément cherché à faire disparaître, encore commenté la ministre française sur Twitter. Direction Israël à présent, c'est un événement qui ne fait pas exactement la une de l'actualité, mais sachez qu'Avner Shalev quitte sur sa demande la présidence de Yad Vashem, une présidence qu'il assumait depuis 28 ans. Institution prestigieuse mais pauvre en moyens, créée par une loi de 1954 sur le nom de Rechut HaZikaron LeShoah UleGvura, Yad Vashem est aujourd'hui un extraordinaire ensemble où l'exigence historique ne cède en rien à la qualité muséographique et architecturale, à la modernité des présentations et à la force émotionnelle des symboles. Ceux qui ont visité le musée et le mémorial des enfants savent bien de quoi je parle. Lieu incontournable des visites officielles en Israël, parmi lesquelles celle de trois papes, Yad Vashem est aussi une école internationale où plusieurs milliers d'enseignants sont formés chaque année. C'est un repositoire d'archives exceptionnel parmi lesquels le répertoire des victimes de la Shoah qui contient aujourd'hui 4 800 000 noms dont une grande partie n'a été récupérée que par un travail collaboratif colossal d'analyse de documents éparpillés. C'est aussi un titre admirable, celui de juste parmi les nations qui honore, je vous le rappelle, les personnes non juives qui ont sauvé des juifs de la mort. Le comité français pour Yad Vashem, présidé par Pierre-François Weil, qui est le fils de Simone Weil, qui a succédé au très regretté Paul Schaffer, est particulièrement actif dans ce domaine, l'un des rares de la Shoah qui permettent un peu d'optimisme sur la nature humaine. Avner Shalev quitte Yad Vashem entouré de l'admiration de ses collaborateurs comme des plus hautes autorités de l'État d'Israël en raison de la clarté de sa vision et de sa capacité à la traduire en termes d'organisation. Il est exemplaire de l'excellence israélienne. Avant d'exercer des fonctions de haute responsabilité dans l'éducation et la culture, il avait été général de brigade pendant la guerre de Kippour, adjoint au chef d'état-major. Il quitte donc Yad Vashem au moment où la campagne de vaccination israélienne suscite l'étonnement du monde par son efficacité. Or, il ne faut pas négliger l'influence de l'armée dans cette campagne et rappeler que Tsahal est l'école de l'organisation dans une société israélienne pour laquelle c'est un gage de survie. À comparer avec la France, par exemple, où la parole sert de viatique et où la phrase, l'intendant suivra, qu'on attribue peut-être à tort au général de Gaulle, succède à trop de décisions. On ne sait pas qui remplacera Avner Shalev, mais ce ne sera pas Effi Etam, dont le nom avait soulevé de légitimes protestations en raison de cette prise de position politique. Dans son combat pour la mémoire, Yad Vashem ne peut être soupçonné d'instrumentaliser l'histoire. Les faussaires ne sont plus uniquement les négationnistes, il y a des faussaires plus subtils, ceux qui, sous prétexte qu'il y a des justes dans leur pays, prétendent que le pays tout entier était un pays de justes, ceux qui prétendent que les malheurs de leur histoire résultent de crimes pires que la Shoah, il y a aussi ceux qui prétendent que trop parler de la Shoah empêche d'aller de l'avant. « Souviens-toi de ton futur », disait pourtant Nachman de Bratslav. « Les survivants sont les vigiles de l'avenir, avec leur progressive disparition, avec la recrudescence de l'antisémitisme, avec l'augmentation des phénomènes d'emprise dans la société et avec la dévalorisation de la vérité historique au profit d'une vérité alternative, non à la mode du mensonge. L'enseignement de la Shoah doit se trouver de nouvelles méthodes pour influencer des jeunes générations biberonnées aux théories du complot » et au relativisme généralisé, un grand défi donc à relever pour le futur président de Yad Vashem.
ולכן רועד כל في الليل يوم يوم وليل كل هزمان بيناتي وخال لو مسومان يوم يوم وليل كل هزمان يا فدو יום יום ולא כל הזמן בינתי וחי לא מסומן יום יום ולא כל הזמן יחד
Près de 300 nouveaux immigrants en provenance d'Éthiopie ont atterri jeudi dernier à l'aéroport Ben-Gurion lors du 9e et dernier vol de l'opération Tsour Israël lancée en décembre dernier après que le gouvernement israélien ait approuvé l'immigration en Terre Sainte de 2000 personnes issues de la communauté éthiopienne. Ces nouveaux immigrants rejoindront les 1700 autres Éthiopiens déjà arrivés dans le cadre de cette opération. Le dernier vol de l'opération Tsour Israël est arrivé réunissant d'innombrables familles. C'est un moment émouvant qui nous rappelle que notre mission consistant à ramener les membres restants de la communauté qui attend de pouvoir faire son alia est loin d'être terminée. C'est ce qu'a déclaré Isaac Herzog, le président de l'agence juive. Je tiens à remercier mon amie, la ministre de l'alia et de l'intégration, Pnina Tamano-Shatta, qui est éthiopienne, et tout son ministère pour avoir travaillé avec nous afin de mener à bien cette opération complexe. Je remercie également les généreux donateurs et partenaires qui se sont réunis pour amener ces 2000 nouveaux immigrants en Israël au cours des derniers mois. Je vous rappelle qu'en octobre 2020, Benjamin Netanyahou avait fait part de son intention de faire venir 2000 membres de la communauté Falashmoura en Israël, et cela lors d'un entretien téléphonique avec son homologue éthiopien. Le Kosovo devient le premier pays à majorité musulmane à reconnaître Israël comme capitale d'Israël. La mission a été ouverte lors d'une brève cérémonie au cours de laquelle le drapeau du Kosovo a été hissé devant le bâtiment de l'ambassade et une plaque frappée du texte écrit en albanais, en hébreu et en anglais. République du Kosovo, fixée à son entrée. En échange d'une reconnaissance de son indépendance par Israël, le Kosovo est devenu donc le premier pays à majorité musulmane à reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. La décision de Pristina, la capitale, a provoqué des critiques non seulement au sein des pays à majorité musulmane, comme la Turquie qui a dénoncé une violation des résolutions de l'ONU et du droit international, mais aussi au sein de l'Union européenne. L'accord Israël-Kosovo avait été évoqué en septembre dernier à Washington par le président américain d'alors Donald Trump dans le cadre de pourparlers économiques avec la Serbie et son voisin kosovar. Le Kosovo et Israël, je vous le rappelle, ont établi des relations diplomatiques en février au grand mécontentement de Belgrade qui ne reconnaît pas l'indépendance de son ex-province. Quant à la Tchéquie, elle a inauguré également sa représentation en Israël en visite à Jérusalem. Le premier ministre tchèque, M. Andrej Babiš, a inauguré les locaux qui serviront de représentation diplomatique de la Tchéquie à Jérusalem avant de devenir une ambassade. Le bâtiment est situé, pour ceux qui connaissent, à la rue Washington, non loin de l'hôtel King David. Lors de la cérémonie, le premier ministre tchèque a déclaré « Je suis heureux de proclamer que la République tchèque inaugure sa représentation ici. Il s'agit d'un acte qui témoigne de l'importance que nous accordons à cette ville et qui est également une preuve de l'amitié qui règne entre la République tchèque et l'État d'Israël. » Fin de citation. Par ailleurs, je voudrais vous parler d'une coopération israélo-brésilienne contre le corona. Le directeur de cabinet du Premier ministre Tsahi Braverman a reçu mardi le ministre brésilien des Affaires étrangères, lui aussi venu en Israël, pour que son pays puisse apprendre de la manière dont le pays se mesure au corona. Les deux hommes ont convenu de former une équipe professionnelle mixte qui élargira le spectre de l'accord de coopération déjà existant entre les deux pays et qui travaillera notamment sur la recherche, le développement et la production de vaccins. À cette réunion assistait entre autres, côté israélien, le professeur Avi Simchon, président du Conseil national de l'économie, et côté brésilien, le professeur Felipe Martins, conseiller du président Bolsonaro, l'ambassadeur du Brésil en Israël, Gershon Menandro Garcia de Freitas, ainsi que le député Eduardo Bolsonaro, le fils du président brésilien et comme lui, ardent partisan de l'État d'Israël.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Hallelujah.
I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. So I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing.
C'était bien sûr Leonard Cohen avec Alléluia. Chypre et Israël s'accordent sur l'exploitation commerciale du gaz de Méditerranée. Chypre et Israël sont donc parvenus à cet accord sur les lignes directrices sur la base desquelles les sociétés opérant dans les champs gaziers Aphrodite et Ishai pourront donc entamer des négociations pour leur exploitation commerciale. C'est ce qu'a annoncé en tout cas mardi à Chypre. C'est ce qu'ont annoncé les ministres de l'énergie de Chypre et d'Israël, Natassa Pilides et Yuval Steinitz. Dans cette déclaration, la ministre chypriote a remercié son homologue israélien et son équipe pour les discussions très constructives qu'ils ont eues au cours des dernières 24 heures, affirmant qu'en très peu de temps, ils ont réussi à faire des progrès significatifs sur toutes les questions bilatérales, mais surtout sur les discussions concernant Ishai et la question du champ gazier d'Aphrodite, une question qui affecte donc les deux pays. Elle a ajouté qu'ils se sont mis d'accord sur un cadre selon lequel les entreprises impliquées dans ce projet auront des directives spécifiques concernant les discussions qu'elles auront pour résoudre la question entre elles dans un délai donné. De son côté, l'Israélien Yuval Steinitz a déclaré que cette visite d'un jour avait été très fructueuse. Il a déclaré que finalement, après des années de pourparlers et de négociations interminables et infructueuses, nous pensons avoir fait un progrès significatif, peut-être même une percée. Il a encore expliqué que l'idée générale est que les deux gouvernements permettent aux entreprises impliquées de part et d'autre de la ligne de démarcation entre les zones économiques exclusives de Chypre et d'Israël de s'asseoir ensemble pendant les 6 prochains mois et d'essayer de trouver des accords commerciaux entre elles qui seront ensuite soumis à l'approbation des deux gouvernements. Notant qu'ils doivent encore finaliser certains détails dans les documents, il a exprimé l'espoir que dans un délai très court, ils seront en mesure d'inviter les entreprises des deux parties à s'asseoir ensemble avec la permission et l'approbation des gouvernements israéliens et chypriotes. Le responsable israélien a également déclaré qu'il était très symbolique que sa première visite à l'étranger depuis la pandémie soit à Chypre, la qualifiant de nouvelle preuve des relations très étroites qui existent entre nos deux pays. Fin de citation. Alors, on va parler nourriture et d'une histoire juive, le bagel, un petit pain rond à trous. Le bagel est aujourd'hui un pain à sandwich que l'on peut trouver à peu près partout dans le monde. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'invention du bagel remonterait à plusieurs centaines d'années. Mais oui, il a été créé par un boulanger juif qui souhaitait remercier Jean III Sobieski, le roi polonais, d'avoir protégé notamment les juifs contre l'invasion turque de l'Autriche. C'était à la fin du XVIIe siècle. Le bagel devrait son nom à sa forme bugel, signifiant étrier. La passion du roi sauveur de juifs était l'équitation. D'autres historiens attribuent le nom de ce pain au mot Yiddish bagen, qui signifie plier ou encore pencher. Le trou du bagel aurait par ailleurs un côté pratique. Cela permet d'exposer en magasin et ainsi de faire saliver les clients des boulangeries. L'un des grands éléments différenciant par rapport aux autres pains est que le bagel est trempé avant d'être cuit. Il est d'abord ébouillanté avant d'être cuit au four. Et dans son bain bouillant, certains boulangers rajoutent, paraît-il, du miel et du sucre. Sur le dessus, le bagel peut être agrémenté de graines, sésame ou encore pavot. Le bagel a suivi les Juifs qui ont immigré aux États-Unis et au Canada et c'est là qu'il est devenu incontournable. En 1946, le New York Times consacre même un article à ce qu'il appelle le petit pain juif dur avec un trou au milieu. Le bagel est devenu populaire pour des raisons politiques suite à l'augmentation du prix du pain. Une association du Bronx à New York avait envoyé des bagels aux membres du gouvernement accompagnés d'une note qui disait « Voici à quoi ressemblera notre pain si les prix continuent à augmenter. Le bagel, c'est un trou avec du pain autour. » Aujourd'hui, le bagel est agrémenté de mille façons, la plus populaire étant la version cream cheese saumon, saumon fumé, oignon rouge et capre. Des versions végétariennes existent avec avocat et salade ou à la viande avec poulet et encore pastrami. Le sucré n'est pas en reste, le bagel étant aussi utilisé pour le petit déjeuner ou le goûter. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va le manger parce que maintenant on va commencer à manger des matzot. C'était Nigun for Shabbos. Et à présent, je voudrais vous lire un article qui est paru dans La Croix et aussi dans le journal italien Le Corriere della Sera. Le 12 mars 1939, Eugenio Pacelli, 63 ans, succède à Pie XI sous le nom de Pie XII. Le nouveau pape est intronisé à l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire européenne. Confronté aux pires atrocités qui soient, la guerre totale et le génocide, il va devoir choisir entre agir avec éclat ou privilégier l'action clandestine. Dans un article publié le 13 mai par le Corriere della Sera, l'historien Andrea Riccardi, par ailleurs fondateur de la communauté de San Egidio, apporte de nouveaux éclairages sur l'attitude de Pie XII et du Vatican face à la Shoah. Le Vatican avait des informations sur la Shoah, mais évita de la dénoncer, préférant mener une action humanitaire souterraine. Le pape avait conscience que ce choix l'exposerait à des critiques. Et le 10 octobre 1941, Pie XII reçut Mgr Angelo Roncalli, venu d'Istanbul, qui nota ensuite « Il m'a demandé si son silence sur le comportement du nazisme n'était pas mal jugé ». Le mot « silence » est aujourd'hui utilisé par ceux qui critiquent le pape Pacelli. Il l'utilisait donc déjà lui-même pendant la guerre pour désigner un choix conscient, même si c'était un choix douloureux. Avant Roncalli, il avait reçu Luciana Frassati de retour de Pologne, qui lui avait dit qu'il y était vu avec hostilité car il n'intervenait pas en faveur des catholiques polonais et le pape avait répondu « La gratitude n'est pas de ce monde ». Fin de citation. Crime de silence, c'était l'accusation de certains milieux catholiques polonais face à l'absence de prise de position du Vatican. C'est également ce que rapporta au pape, en novembre 1941, Don Piero Scavizzi, prêtre romain, qui s'était rendu en Pologne et en Ukraine, occupé par les Allemands, et avait vu des scènes d'horreur. Il parla au pape de la lourde persécution de l'Église en Pologne. « On aimerait entendre une position idéologique claire, publique et décisive », lui avait-il rapporté. Il informa également des massacres des Juifs. En octobre 1942, de nouveau reçu par le pape, après un nouveau voyage, il calculait que 2 millions de Juifs avaient été assassinés à l'Est. Le mot « silence » concerne alors davantage les Polonais que les Juifs. Il exprime le choix du pape pendant la guerre mondiale, un terrain peu visible pour un catholicisme divisé entre des pays en conflit. Les nouvelles affluaient au Vatican, bien qu'elles n'aient pas toujours été facilement vérifiables. On ne peut pas dire que le pape n'était pas au courant des massacres de Juifs, comme l'ont parfois affirmé ses défenseurs. De même, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit une découverte que de trouver des documents sur les massacres des Juifs parmi les papiers du Vatican. Actes et documents dans les années 60 et 70 en ont déjà publié beaucoup. L'ouverture des archives du Vatican sur Pie XII en mars dernier, mais interrompue après 5 jours pour cause de Covid-19, apportera de nouveaux éléments. Parmi ce qu'il a été possible de voir, il y a des documents terribles, comme 3 photos sur lesquelles on voit des Juifs nus avant une exécution avec un regard terrorisé, puis des soldats allemands enterrant des cadavres. Les photos prises par un témoin en Pologne ont été transmises en avril 1943 au nonce en Suisse, Mgr Filippo Bernardini, par Adolf Silberstein, un juif de Lvov, alors en Suisse à la tête d'un comité pour les juifs, quelqu'un qui s'est battu à main nue pour sauver des vies. Il y a des moments durant la guerre où une forte pression s'exerce sur Pie XII pour un acte public contre les nazis. Et en août 1942, une personnalité faisant autorité, comme le métropolite gréco-catholique de Lvov, Mgr Chpetitsky, il avait d'abord accueilli les nazis comme des libérateurs de l'occupation soviétique après le pacte Molotov-Ribbentrop, informa le Vatican des massacres de juifs. Peu de temps après, il y a eu une offensive diplomatique américaine. Myron Taylor, représentant de Roosevelt, accueilli avec beaucoup d'attention au Vatican en septembre 1942, était lui porteur d'une demande d'intervention du pape pour les civils, les prisonniers de guerre et les juifs. Ennio Dinolfo a publié en 1978 le rapport sur les crimes nazis contre les juifs remis par Taylor au Vatican et déjà publié par le bureau historique du département d'État. Les Anglais, moins influents au Vatican, intervinrent également. La mission Taylor soulevait plusieurs questions. Les informations américaines avaient-elles besoin de confirmation? Une condamnation était-elle nécessaire? Dans une note, Mgr Angelo Del Acqua, assistant de la secrétaire d'État, a soupçonné une exagération dans les nouvelles et un but politique dans l'opération. Le fonctionnaire, ainsi qu'il ressort de diverses notes de 1943, était souvent en faveur de la prudence et ne comprenait guère le caractère dramatique des événements. De plus, il y avait différentes sensibilités au Vatican. Le cardinal Nicola Canali, pro-fasciste, était pour se tenir à l'écart et ne pas cacher les Juifs. Finalement, il fut décidé de répondre aux Américains que le Saint-Siège avait reçu des informations sur des traitements sévères contre les Juifs, mais qu'il ne pouvait pas en contrôler la validité. Pie XII, dans le message radiophonique de Noël 1942, a condamné, sans citer de nom, la mort ou l'extermination progressive de centaines de milliers de personnes pour des raisons de nationalité ou de race. Tittmann, le collaborateur du fameux Taylor, lui a fait part de certaines critiques sur son message parce qu'il était générique. Le pape a répondu que lorsqu'il parlait d'atrocités, il ne pouvait pas nommer les nazis sans mentionner les bolcheviks et cela, selon lui, ne plaisait peut-être pas aux alliés. Tittmann en convainc et de son côté, Pie XII, en 1941, avait appuyé le choix de Roosevelt de s'allier avec les soviétiques contre les nazis auprès des catholiques américains hostiles à un tel choix. Pie XII voulait éviter que le Saint-Siège ne finisse par se ranger du côté d'un des partis. Il ressentait la difficulté de l'Église à maintenir unis les catholiques divisés par la guerre et la propagande. Il craignait enfin la pression nazie sur les catholiques allemands ou sur les Polonais otages du Troisième Reich. Il a donc choisi, pour préserver l'Église comme espace humanitaire et d'asile, d'intervenir diplomatiquement, de promouvoir une paix négociée de plus en plus lointaine. C'était la philosophie de l'impartialité active sur le plan humanitaire, déjà utilisé en 1914-18, à l'époque, Benoît XV, dont Pacelli avait été le collaborateur, disait avec amertume et ironie « Notre impartialité ne nous fait que des ennemis ». Enfin, au Vatican, il y a eu des pressions pour changer de ligne. Mgr Respighi, qui avait étudié avec Pacelli, espérait une parole forte et solennelle du Saint-Père pour la défense de l'humanité. Monseigneur Tardini, proche collaborateur du pape, a examiné lui en mai 1942 la possibilité d'un acte public de défense des catholiques polonais pour condamner et protester contre tant d'injustices. Il conclut qu'il valait mieux l'éviter pour ne pas être utilisé par les alliés, alors que le gouvernement allemand aggraverait encore la persécution contre l'Église en Pologne et empêcherait par tous les moyens que le Saint-Siège ait des contacts avec l'épiscopat polonais. Le modèle sur la question polonaise est similaire à celui appliqué peu après au massacre des Juifs. On a opté pour une action humanitaire et diplomatique. La persécution antisémite était considérée comme très grave dans une note de mai 1943. On estime à 100 000 le nombre de Juifs survivants en Pologne sur 4 500 000, mais elle était considérée comme un aspect du grand mal de la guerre. À l'évidence, en regardant les trois terribles photos qui émergent aujourd'hui des archives du Vatican, on ressent combien les instruments diplomatiques étaient inadéquats face à un drame immense et sans précédent.
Thank you.
Et c'est donc avec Boa Charabi et cette belle chanson Atli Laila que se termine cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En ce qui me concerne, je vous retrouverai bien sûr dimanche prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, il me reste le temps de vous souhaiter et de un Shabbat Shalom à Guit Chabes et bien sûr Chag Pesach Samehar. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures.
Découverte, découverte, Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenance d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités.
Judaïka. 90.2 FM.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres carmin, j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme, qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Jolie marguerite sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste, au matin du dimanche, l'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme, qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Surplombait la Manche, quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas.